Amen. Nous débutons ce matin une série de trois messages sur le mariage. Nous sommes dans un temps de mariage à l'Église. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire une série de trois messages, justement. Et c'est certain que le mariage, c'est quelque chose de très, très vaste. Nous allons le regarder, mais en surface, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur le mariage. Mais nous allons quand même approfondir le sujet. Et le premier message va être sur le mariage entre l'homme et la femme. Le deuxième point que nous allons voir sera le mariage de Dieu et d'Israël, l'alliance qu'ils ont fait ensemble. Et le troisième point que nous allons voir, c'est le grand événement qui s'en vient, Christ et son épouse. Trois mariages. On ne peut pas passer à côté de ça. Trois mariages. Toute relation intime sur la terre, dans l'univers, toute relation intime entre individus, entre Dieu et l'homme, les alliances qu'il y a, c'est un mariage. Très important. Les gens ont oublié ça aujourd'hui. Les gens ne considèrent plus le mariage comme quelque chose d'important. Mais aux yeux de Dieu, c'est très important. Et vous allez voir, si vous n'êtes pas ici pour les prochaines réunions, allez sur le site web. C'est un suivi que vous devez faire sur les trois sujets que je vais aborder, les trois points sur le mariage. Et vous allez comprendre bien des choses. Et ce matin, le texte que nous allons voir est dans Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Et c'est écrit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Il y a environ 147 200 mariages au Canada par année. 4,4 mariages par millier d'habitants. Le taux le plus faible depuis les 100 dernières années. 4,4 mariages par millier d'habitants. Au Québec, c'est 2,9. Tous les pays du G8 avait une baisse depuis les années 70. Et le Canada a le taux le plus faible de mariage dans tous les pays du G8. Les filles se mariaient en moyenne à 22 ans, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ils se marient à 29 ans. Les hommes se mariaient à 25 ans, il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, ils se marient à 31 ans. Quand je dis plusieurs années, depuis les années 70. Alors, c'est à peu près une quarantaine d'années, soit une génération. Au Canada, 40,7% des mariages se terminent par un divorce. En 2008, 42,3% de jeunes adultes vivaient chez leurs parents, comparé à 26,3% en 1981. En 2010, 51,2% de femmes qui ont eu un bébé, un premier bébé, avaient 30 ans et plus. 51,2%. Pourcentage deux fois plus élevé qu'en 1974. Alors, pour vous dire des statistiques qui sont à la baisse. Pour protester contre le mariage, James et Mary Grady de l'Illinois se sont mariés 27 fois entre 1964 et 1969. 27 fois. Dans 25 États différents. Se sont mariés 3 fois dans une journée, dans la même journée. Se sont mariés 2 fois dans une heure. À un moment donné, ils se sont mariés 2 fois dans une heure. Et se sont mariés 2 fois à la télévision. Alors, de nos jours, il y a une méfiance, un pessimisme dans notre culture au sujet du mariage, surtout chez les jeunes adultes. Ils estiment avoir peu de chances de survivre. Ils estiment qu'ils vont avoir une perspective d'une vie sexuelle ennuyeuse. Il y a une vedette d'Hollywood qui a déjà dit « Vous avez le choix, le mariage est monotonie. » ou bien célibat et solitude. Ils envisagent le concubinage, solution intermédiaire entre le mariage et de simples rencontres de célibataires. Bref, ces 3 dernières années, cette pratique du concubinage a connu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, plus de la moitié des gens vivent ensemble avant de se marier, contrairement aux années 1960 où le concubinage était quelque chose d'exception. On se dit, après tout, si la moitié des mariages finissent par un divorce, les 50% qui restent doivent vivre une vie vraiment monotone. Quand on dit que Las Vegas est la capitale du mariage, on s'entend-tu que le mariage n'est plus quelque chose de sérieux? Beaucoup de personnes à qui j'ai dit que ma fille se mariait à 21 ans, m'ont tous dit, ou à peu près tous, « T'es pas sérieux. Est-ce qu'elle pense ce qu'elle fait? » Et c'est ça. Mais malheureusement, le problème de ces croyances ou ces suppositions ou ces états d'âme sont fausses. Le sujet de l'amour, des fiançailles et du mariage a déjà occupé des générations entières, depuis toujours. Et c'est un sujet qui n'est pas épuisé, ce n'est pas quelque chose du passé, mais ça reste quelque chose d'actualité. C'est un sujet à lequel Dieu tient énormément. Sujet actuel et important. Spécialement pour vous qui n'avez pas encore fait le pas du mariage, ou bien pour les parents, ou bien pour les grands-parents. Le mariage a été institué par Dieu avant même que le péché soit entré dans le monde. Dieu lui-même a pris l'initiative et a dit en Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Nous pouvons être sûrs que la femme qu'il a faite pour Adam était ce qui lui correspondait parfaitement dans les 3 parties de l'être humain. On connaît les 3 parties de l'être humain, l'esprit, âme et corps. Dans sa sagesse, il les a créés, mâles et femelles, il les a fait différents, mais parfaitement complémentaires l'un à l'autre. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui met de plus en plus de côté les normes que Dieu a données pour le mariage. Mais le désir de Dieu était de nous aider à comprendre quelque chose de son merveilleux plan pour Christ et l'Église. Son épouse. Alors, le mariage est quelque chose que Dieu voulait nous montrer pour le futur, pour vraiment l'accomplissement de toute chose, Christ et son épouse. On va revenir plus tard là-dessus. Ce qu'il a donné à Adam, c'est ce qu'il désire nous donner si nous le laissons faire. Ce qu'il a donné à Adam, c'était le meilleur, et Dieu veut le donner pour nous. Se marier et choisir un conjoint de mariage est la deuxième décision importante que nous faisons dans nos vies. La première est la décision d'accepter le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Une décision qui a des conséquences éternelles. La décision de se marier, de choisir le bon conjoint, est pour toute la vie sur la terre. Et le désir du Seigneur est de vous bénir dans votre vie. Il ne désire pas vous donner un second choix, mais le meilleur choix. Il nous a tous créés, et si nous le laissons nous montrer le bon conjoint, Dieu va nous conduire dans nos bonnes décisions. Malheureusement, plusieurs ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Il y a encore beaucoup de mariages heureux aujourd'hui. Et c'est certain que cette prédication est un encouragement afin qu'on puisse vraiment être aidé à suivre les normes de Dieu. Parce que c'est un chemin de bénédiction, non seulement pour nous, mais pour les autres. Pour commencer ma réflexion, je voudrais vous placer devant deux versets de la parole de Dieu, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est dit dans Proverbes chapitre 30, versets 18-19, « Trois choses sont trop merveilleuses pour moi, et il en est quatre que je ne puis connaître. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin d'un navire au cœur de la mer et le chemin de l'homme vers la jeune fille. » Deuxième verset dans le Nouveau Testament, le verset que j'ai lu tout à l'heure dans une autre version, « C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme et les deux seront une seule chair. » Quand on regarde le premier verset dans l'Ancien Testament, ça montre clairement qu'il n'y a pas de recette toute faite pour trouver un conjoint. Il en est quatre que je ne puis connaître, dont une, le chemin de l'homme vers la jeune fille. C'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas planifier. C'est quelque chose qui va se faire, mais on ne sait pas comment. Comme un peu le chemin d'un navire au cœur de la mer. La Bible n'est pas un mode d'emploi listant de manière détaillée la bonne manière de se comporter dans chaque situation de la vie, mais la parole de Dieu nous donne des indications et des principes qui nous sont utiles. Si Dieu nous donne de pareilles indications dans sa parole, il ne le fait pas pour nous jouer un mauvais tour, il le fait pour notre bonheur et notre bénédiction. Alors pourquoi se marie-t-on? On se marie parce qu'on a été éduqué comme ça. Les femmes se marient parce qu'elles pensent avoir de la sécurité dans le mariage. Les hommes se marient pour suivre justement leur future épouse. Il y a des gens qui se marient pour des raisons religieuses. Il y a des gens qui se marient pour économiser des impôts. Il y a des gens qui se marient pour avoir des enfants. Dans toutes ces raisons-là, il y a une parcelle de vérité. Mais ces réponses passent complètement à côté de la manière de voir de la Bible, c'est-à-dire Dieu. Pourquoi donc se marier? Pour avoir des relations sexuelles quand on est marié? C'est en partie vrai, mais il ne faut pas déduire que le sexe est l'essentiel du mariage, car on est complètement dans l'erreur. Il est vrai que le mariage, en fait, c'est la seule possibilité légale de relations intimes, mais c'est beaucoup plus que cela. Avoir des descendants, ce n'est pas non plus le but propre du mariage. C'est une grâce si Dieu donne des enfants dans un foyer, car il est dit « Fructifiez et multipliez-vous » dans Genèse chapitre 1, verset 28. Mais il y a des mariages sans enfants qui sont très bénis et très heureux. Le but essentiel du mariage est que deux personnes soient heureuses ensemble et vivent ensemble à la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu dès le commencement. Le mariage n'a pas été inventé par l'homme, mais institué par Dieu lui-même. Adam et Ève ont été les premiers humains Et Dieu les a mis ensemble dans le mariage, dans une unité merveilleuse et indissociable. Le mariage est la forme la plus étroite et la plus intime de vie commune sur la terre. Il est une communauté de vie, d'amour et de service. Dieu avait merveilleusement préparé la création. Il avait fait les animaux, puis Adam. Adam avait tout ce qu'il faut. Il avait de la sagesse, mais il était seul. Quand les animaux vinrent à lui, il leur donna des noms. Peut-être éprouva-t-il qu'il était seul. Et Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Alors l'homme et la femme vont ensemble selon l'ordre de la création de Dieu. Ils forment ensemble une merveilleuse unité que Dieu appelle l'homme. Quand Dieu parle de l'homme dans la parole de Dieu, il parle de l'homme et la femme. Et je dirais que le Nouveau Testament approuve le mariage à plusieurs reprises, car le Seigneur Jésus lui-même a participé à une noce, et même il contribua à sa réussite. Les Épîtres parlent à plusieurs reprises de mariage. Enfin, dans le dernier livre de l'Apocalypse, dans la Bible, l'Apocalypse, l'image du mariage est utilisée. Alors, Dieu a créé différemment l'homme et la femme. Leurs aspects extérieurs sont différents et différents. À côté des différences corporelles, il y a des différences essentielles de l'esprit et de l'âme. Nous sommes différents dans l'être même. Bien que l'homme et la femme forment une unité dans le mariage, les différences données de Dieu sont là. Dieu a créé mâle et femelle, homme et femme. Dieu a créé deux sexes, l'un masculin et l'autre féminin. Dieu a fait toutes choses. Et c'est pour ça que l'homme et la femme sont différents. Mais attention, ils sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont différents en valeur. L'homme et la femme ont tous la même valeur. Ils ne sont pas pareils, mais aux yeux de Dieu, ils ont tous la même valeur. Et l'homme ne fonctionne pas comme la femme, ni la femme comme l'homme. Pour utiliser un vocabulaire moderne, je dirais que Dieu a donné aux hommes et aux femmes un logiciel différent. Le mécanisme n'est pas le même. Nous sommes différents dans notre être. Nous sommes aussi différents dans les domaines de nos devoirs, de nos responsabilités. L'homme et la femme ont la même valeur, mais ne sont pas semblables. Dans un foyer, la femme est principalement l'âme et le cœur. L'homme, c'est la tête. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité de conduire. Les deux délibèrent ensemble, mais l'homme porte devant Dieu une responsabilité particulière. Il doit être le pôle sur lequel on se repose. Inversement, la femme doit lui être une aide de valeur dans ses décisions. La Bible dit que l'homme a été formé de la poussière. Et c'est peut-être à cause de cela que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes pensent de manière plus rationnelle. Ils sont plus concernés par les faits, parce qu'il vient de la poussière. Tandis que la femme, à l'opposé, a été tirée d'une côte de l'homme, à proximité du cœur. Peut-être que c'est la raison pour laquelle les femmes sont plus émotives et davantage concernées par les questions de personnes. Les hommes plus rationnels, les femmes plus de cœur. Les trois étapes essentielles qui constituent la base d'un mariage heureux n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 5, verset 31. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » C'est la clé. Trois choses quittera le père et la mère. Deuxième chose, s'attachera à sa femme ou réciproquement à l'homme, à son mari. Et troisième chose, être une seule chair. Dieu met ensemble, toujours ensemble, dans le mariage, deux sexes. Une communauté de vie de gens du même sexe est contre nature. Et cela est confirmé à la fois par l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est contraire à la volonté de Dieu et c'est une abomination pour notre Seigneur. On le voit dans Romains chapitre 1, verset 26. Un mariage de gens de même sexe, ce n'est pas possible aux yeux de Dieu. On peut avoir des amitiés entre hommes et hommes, femmes et femmes, des bonnes amitiés avec des bonnes bénédictions, mais tout pensée ou domaine sexuel doit être exclu de ce genre d'amitié. Alors, dans le verset que nous avons lu, l'homme quittera son père et sa mère. Dieu parle de quitter, ce qui signifie tu abandonnes l'environnement qui a prévalu jusqu'ici. Un couple doit pouvoir tenir debout de manière autonome, à la fois financièrement, mentalement, spirituellement. Comme mari, tu dois être en mesure de pourvoir de toute manière à ta future famille. Les enfants doivent pouvoir être élevés par leurs parents. Cette autosuffisance est un processus et prend du temps. Un jeune homme qui n'est pas autonome du jour au lendemain, pas plus qu'une jeune femme. C'est un processus. Mais Dieu dit « quitte ». Cela vaut d'ailleurs aussi bien que pour l'homme ou pour la femme. Psaume 45, verset 11, nous lisons « écoute, fille, et vois ». Et incline ton oreille et oublie la maison de ton père. Ça ne veut pas dire d'oublier tes parents, d'oublier la maison, d'oublier toute la famille. Mais ça veut dire qu'il y a un temps, il y a eu un temps pour ton père, il y a un temps pour d'autres choses. Tu dois quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Première chose, très importante. Et quand on parle de quitter, c'est quitter. Deuxième chose, s'attachera à sa femme et vice-versa. L'homme et la femme doivent s'attacher l'un à l'autre. C'est une unité de mentalité, d'âme et d'esprit. C'est un processus qui commence dans la période de fiançailles. C'est pour ça qu'il y a des fiançailles. S'attachera. Tranquillement, vont s'attacher. Ça commence par la période de fiançailles, mais ça ne comprend pas l'unité corporelle, parce que le mariage n'est pas consommé encore. S'attacher, c'est adhérer l'un à l'autre, devenir une unité totale de vie qui dure aussi longtemps que les deux conjoints vivent. Le mariage, selon la pensée de Dieu, n'est pas une vie commune, sans obligation, sans cohésion et temporaire. Le mariage... c'est une promesse de fidélité à laquelle on est tenu. Dieu a dit clairement, « Je hais la répudiation. » Si nous séparons et cassons un mariage, nous agissons contre la volonté exprès de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même cite ce verset dans Genèse chapitre 2. « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Dans Marc chapitre 10, verset 9. Et Dieu l'avait cité dans Genèse chapitre 2, verset 24. S'attachera à sa femme et réciproquement. Troisième chose, et les deux deviendront une seule chair. Selon la pensée de Dieu, l'homme et la femme ne deviennent une seule chair que dans le mariage. Cela inclut le fait d'être ensemble sexuellement. Mais une seule chair, c'est plus qu'une communauté sexuelle. C'est une unité d'amour et de vie de deux personnes, quant à l'esprit, l'âme et le corps. Dieu réunit toutes choses dans le mariage. Et le mariage, c'est une réunion, c'est une communion de deux êtres. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est excessivement profond. C'est quelque chose de très important. Et pour arriver à ce processus-là, pour arriver à ce temps-là, ça prend trois choses. Première chose, mûrir intérieurement. Ça prend un moment approprié pour s'intéresser à un conjoint. Quand les jeunes gens sont devenus hommes et femmes, ça prend une certaine maturité intérieure. Cela implique plus qu'une puberté. Oubliez les mariages dans certaines religions de 14-15 ans. C'est impossible. C'est trop jeune. Il n'y a pas de maturité. La puberté est probablement terminée, mais c'est trop jeune. La capacité de procréer ne signifie bien sûr pas automatiquement qu'on est apte au mariage. Ça prend une certaine maturité. Il faut être en mesure de quitter l'environnement qu'on a eu jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Dans plusieurs cas, le foyer parental. Être en mesure de se détacher émotionnellement de ses parents et être capable de marcher sur ses propres jambes financièrement et spirituellement. La relation parent-enfant est une relation extrêmement belle. Je vais revenir là-dessus dans quelques temps pour expliquer la famille et vraiment la profondeur de la famille. Et pour les parents, c'est quelque chose de bien spécial de voir leurs enfants grandir et acquérir une personnalité autonome d'adulte. C'est beau aussi quand les parents gardent intacte une bonne relation avec les enfants devenus adultes. Une relation par ailleurs réciproque de parent à enfant et d'enfant à parent. C'est beau, c'est bien. Mais la relation d'enfant à parent, si belle soit-elle, doit un jour faire place à une autre relation, celle entre l'homme et la femme. Celui ou celle qui se marie doit se détacher de la maison parentale. Et cela demande une maturité. Ça demande une maturité aussi des parents, parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas laisser aller les enfants. Beaucoup dans les mariages chrétiens que les parents ne veulent pas laisser aller les enfants. Et des fois, les enfants ne veulent pas partir non plus. Ils ne sont pas capables de se détacher du foyer parental. Alors, il faut être clair, il faut avoir une maturité. Il faut être assez mature pour dire « c'est terminé, on passe à quelque chose ». Qu'on va être un couple, je vais être en couple, je vais avoir une unité, on va être une unité autonome. Et ça ne veut pas dire que les parents ne seront pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de relation avec les parents, qu'on ne pourra pas se voir, qu'il n'y aura pas de conseils, qu'il n'y aura pas de... Absolument pas. Mais que ça signifie que ça prend une certaine maturité pour après ça vivre de façon que de vivre une unité entre deux personnes. Il faut être capable de faire cela. Alors ça prend une certaine maturité. Deuxième chose. Ça prend être capable d'assumer des responsabilités, des décisions, intellectuellement et spirituellement. Vous devez être capable d'assumer, d'avoir des responsabilités. S'il y a des enfants qui naissent, vous devez être, en tant que jeune parent, en mesure d'élever vos enfants, non seulement économiquement parlant, mais intellectuellement et spirituellement. Ce n'est pas l'affaire des grands-parents. L'éducation de vos enfants est exclusivement du ressort de votre responsabilité. Il faut être capable d'assumer les responsabilités. Aujourd'hui, plusieurs jeunes reviennent à la maison et je pourrais vous donner des statistiques que combien de jeunes reviennent à la maison une deuxième fois parce qu'ils n'étaient pas assez responsables. Et alors, il faut être mature, et être capable d'être responsable. Et troisième chose que ça prend, un vrai amour. Il faut qu'il y ait une capacité, une disposition à aimer. Justement, les hommes ont beaucoup plus besoin de temps pour cela que les femmes. La Bible dit que l'homme doit s'attacher à sa femme. Attacher, adhérer, coller. Les conjoints forment une unité indissoluble. C'est une unité d'esprit, d'âme et de corps. Le mariage a été donné par Dieu comme une liaison de type adhésif, de type adhésif, qui ne se défait pas. Le mariage est une liaison qu'on n'a pas le droit de séparer. Dieu ne veut pas de divorce. Malachie, chapitre 2, verset 16. L'adhésif par lequel le mariage devient une unité indissoluble est l'amour. Ça prend l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus qu'être amoureux. L'amour réel ne se montre pas tant en parole, mais plutôt en acte. L'amour se manifeste en ce que nous sommes prêts à nous donner à l'autre. On est là pour chercher le bien de l'autre. L'amour, c'est le dévouement, l'intelligence à l'égard de l'autre. C'est avoir du temps l'un pour l'autre. C'est s'intéresser l'un à l'autre. C'est avoir ensemble de la communion. C'est se servir l'un l'autre. L'amour, c'est l'adhésif. C'est ce qui rend très fort. C'est pour ça qu'il y a un temps, avant le mariage, il y a toujours un temps de fiançailles. Pourquoi il y a un temps de fiançailles? C'est un temps de préparation, un temps qui est important, un temps où que justement on va être capable de vraiment de penser, d'expérimenter et d'approfondir tout ce qu'on va vivre dans le mariage. Tout ce qu'on. D'approfondir, d'assumer nos responsabilités et de vraiment de tout comprendre le processus du mariage. C'est pour ça qu'il y a des temps de fiançailles. Mais sans amour, aucun mariage ne peut fonctionner. C'est ce qui lie l'homme et la femme. Si on n'est pas attiré, si on n'aime pas, on ne peut pas se marier. On dit qu'il y a des dangers sur l'amour. Parce qu'on aime, on perd la tête. Oui, l'amour, c'est très important. Quelqu'un a dit « l'amour n'est pas tout, mais sans amour, tout n'est rien ». C'est certain que sans amour, aucun mariage ne peut exister. Mais il est certain que ça prend plus que l'amour. Oui, ça prend l'amour, mais d'autres choses avec. L'amour au sens de la Bible, le dévouement, le service, ne pas être égoïste. Je parle des dangers de l'amour, pourquoi? Parce que je veux voir que l'amour... Des fois, on peut l'utiliser à plusieurs sortes de sauces. On parle de l'amour dans les revues aujourd'hui, revues spécialisées en affaires de cœur, dans les romans, dans les chansons, les films. Il y a deux jeunes qui s'embrassent dans un film et là, on parle d'amour. Et l'amour, ce n'est pas quand le cœur fait la culbute et que le pouls se met à grimper. Et l'amour n'est pas en dessous de la ceinture. Mais l'amour de la Bible, c'est complètement différent. C'est très particulier. Il faut faire attention avec ce qu'il y a dans ce qu'on voit ce qu'on est bombardé de marketing sur l'amour, de séries télévisées, de revues, de ce que les gens pensent. Il faut faire attention. Il y a un danger sur l'amour. Il faut vraiment être, voir l'amour au sens profond de la parole de Dieu. La Bible parle à plusieurs reprises d'amour entre un homme et une femme, positivement, mais négativement aussi. Le grand amour. Amenons un des fils de David. Il avait une demi-sœur nommée Tamar, qui était belle, une fille exceptionnelle. Elle était l'objet du désir d'Amnon qui voulut absolument l'avoir, sa demi-sœur. 2 Samuel, chapitre 13. Et la Bible utilise effectivement le mot « amour ». Et Amnon, fils de David, l'aima. Il l'aima tant qu'il en devint malade. Vous savez, le chagrin d'amour, ce n'est pas nouveau, là. Il l'aima tant qu'il en devint malade. Mais que valait l'amour d'Amnon? Le récit montre bien vite que ce n'était rien de plus qu'un amour instinctif, une convoitise charnelle. Rien de plus. Son amour pour elle n'allait pas plus loin. Il s'agissait de satisfaire sa convoitise sexuelle, rien de plus et rien de moins. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Tamar l'ayant éconduit, mais lui ayant satisfait de force son appétit sexuel, son amour se transforma alors en haine. Et la Bible nous dit qu'Amnon l'a haï d'une très grande haine et que la haine dont il l'a haï fut plus grande que l'amour dont il l'avait aimé. Et ce phénomène s'observe encore aujourd'hui. Il faut faire attention sur le mot « amour ». Un autre exemple dans la Bible est celui de Samson. À la suite de plusieurs expériences malheureuses avec les femmes des Philistins, nous lisons qu'il aima une femme de la vallée de Sorek du nom de Delila. Il l'aima. Un homme de Dieu. Son amour pour sa femme n'allait pas plus loin que de l'amour érotique. Et pour de l'argent également. Il voulait satisfaire ses convoitises. Il voulait améliorer ses finances. Qu'est-ce qui est arrivé? Samson paya cet amour au prix de la perte de sa consécration à Dieu, au prix de la perte de sa force, et en plus, il a perdu la vue. Triste fin d'un homme qui devait être consacré à Dieu dès sa naissance. Pourtant, la Bible dit qu'il l'aima. Quand l'amour n'est rien de plus que la satisfaction de convoitises charnelles, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas profond, ce n'est pas un fondement pour le mariage. Mais qu'en est-il de l'amour? Tite, chapitre 2, verset 4, des jeunes femmes, c'est écrit que « requièrent des jeunes femmes qu'elles aiment leur mari ». Le mot utilisé pour « aimer » dans ce passage est celui utilisé ailleurs pour les sentiments à l'égard d'amis. Avoir de l'affection, apprécier. Aimer, c'est d'apprécier, c'est d'avoir de l'affection. Tu trouves en lui, en ton conjoint, quelque chose qui te plaît, qui te procure de la joie. Oui, c'est important l'emballage, c'est important le paraître, mais il faut aller plus loin que ça. Pas seulement l'emballage, mais le contenu. Oui, c'est important que ton futur conjoint doit te plaire, et que l'amour a quand même à faire avec un minimum de, je dirais, entre guillemets, de corporel. Mais il faut découvrir chez ton conjoint des qualités intérieures et des vertus qui te plaisent. Si tu ne peux pas développer de tels sentiments, alors il vaut mieux ne plus rien toucher à l'affaire. ça prend un amour profond. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne tient pas compte du mal. 1 Corinthiens. Ça, c'est l'amour. L'amour dans le mariage va très profond. Éphésiens chapitre 5, quand on parle des maris qu'ils aiment leurs femmes, c'est le même terme en grec que quand on parle de Dieu qui aime l'homme. C'est un amour incommensurable. C'est un amour qui est infiniment profond. Un amour désintéressé. Un amour qui donne même quand il n'a aucune raison pour le faire. C'est un adhésif. Nous devons comprendre cet amour profond quand nous disons oui à notre mariage. On parle de l'amour de Dieu, que c'est impossible de vraiment de le comprendre, de le saisir. Comment Dieu peut nous aider, Dieu peut nous aimer. La Bible dit que Dieu est amour. L'amour est un état d'esprit, une disposition intérieure. Il signifie que les intérêts de mon conjoint, partenaire, prévalent sur les miens. L'amour se montre en donnant. Il se montre dans les faits, dans le dévouement, dans l'intérêt et dans la compréhension de l'un pour l'autre. L'amour signifie qu'on s'aide l'un l'autre. L'amour se montre en ce qu'on donne à l'autre, protection et sécurité. L'amour n'est pas moi, 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 moi. L'amour signifie qu'on est prêt à se sacrifier, qu'on est prêt à se pardonner. C'est pourquoi qu'il vaut mieux de ne pas commencer par te demander ce que le mariage t'apporte. Oui, le mariage va apporter beaucoup, mais le mariage exige beaucoup. Le pardon à cause de l'amour. Il n'y aura pas tout le temps des beaux jours. Il y aura des jours mauvais. Si on veut vivre en égoïste, autant ne pas se marier. Surtout de la part de l'homme. Souvent, les hommes sont égoïstes. L'amour implique de servir. Qu'est-ce que Exode nous dit, chapitre 21, verset 5? Il y a un serviteur qui dit à un moment donné, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. » J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je ne veux pas sortir libre. Il pouvait sortir de la maison, il était libre. Il dit, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera toujours pour toujours à son service. L'amour est un motif est un motif au service. C'est la même chose pour le mariage. Qu'est-ce que l'esclave a dit? Il aima son maître. Il dit, je vais rester esclave toute ma vie. C'est ça l'amour. C'est ça le mariage. On ne joue pas avec l'amour. On ne s'engage pas à la légère dans le mariage. Pour aimer de manière désintéressée, on a effectivement besoin d'une certaine maturité. Est-ce qu'on est prêt pour un tel amour? Est-ce qu'on est prêt à aimer de cette façon-là? Il y a un père, à un moment donné, qui a donné un conseil à ses fils. Ses fils devenaient adultes. Il a dit, « N'épousez jamais une fille que vous n'aimez pas. Mais ne dites jamais à une fille, « Je t'aime. » si vous ne voulez pas l'épouser. L'amour, c'est une plante. C'est une belle plante, très délicate. Elle a besoin de temps pour fleurir. L'amour n'est pas un coureur automatique qu'on met en route une fois pour toutes. L'amour est fragile, il faut y veiller avec soin. le protéger et en prendre soin. L'amour s'apprend, il donne et il exige. Pour que l'amour se déploie, il faut des conditions bien précises. L'amour a besoin de patience, de confiance, de fidélité, de dévouement, mais l'amour donne aussi. Il donne chaleur, amitié, sécurité, compréhension. Il aide l'âme à mûrir. Il est bon d'apprendre très tôt à pardonner aux autres et à estimer les désirs des autres davantage que la satisfaction de ses propres désirs. L'histoire de Rebecca dans l'Ancien Testament. Vous connaissez Rebecca? On dit que Rebecca était une fille belle et même très belle. Et merci pour la beauté. Mais vous savez que la beauté extérieure va disparaître un jour. Ce qui va rester, ce sont les valeurs intérieures. Et on dit que Rebecca était très belle. Mais savez-vous ce que la Bible dit? La Bible met l'accent sur ses qualités intérieures. Et Rebecca avait justement cela en abondance. Vous savez, le maître a envoyé son serviteur pour trouver une femme à son fils. Et son serviteur est allé avec plusieurs personnes. Et son serviteur a vu que sa beauté, cette femme-là, cette fille-là, elle était très belle. Mais il a regardé ses qualités. Qu'est-ce que le serviteur a regardé? Rebecca était amicale. Quand le serviteur lui demanda de l'eau, elle en donna volontiers. Sa beauté ne l'avait pas rendue arrogante, mais simplement amicale envers un étranger. Autre chose, Rebecca avait les yeux ouverts aux besoins d'autrui et pouvait mettre la main à la pâte. Elle donna de l'eau non seulement aux serviteurs, mais elle abreuva aussi les chameaux, ce qui n'était pas peu de choses. Vous savez qu'un chameau peut boire 100 litres en 10 minutes. C'est plus que quelques seaux. Rebecca était travailleuse. Elle n'agissait pas lentement ou paresseusement. Plusieurs fois, il est dit, elle se hâta ou elle courut. Rebecca était hospitalière. Même qu'il s'agit de la maison de ses parents, il allait de soi pour elle que les étrangers pouvaient passer la nuit chez eux. Elle n'a pas demandé la permission à ses parents. Elle a dit « Oui, vous pouvez venir chez moi ». Rebecca était capable de prendre des décisions. Elle n'apparaît pas comme la fille choyée par de riches parents. Elle était en état de décider d'elle-même. Et finalement, Rebecca était autonome. Quand il s'agit de quitter la maison de ses parents, elle n'hésita pas longtemps, mais elle partit avec le serviteur en Canaan. Qu'est-ce que la Bible parle? Elle parle de sa beauté, mais de ses valeurs intérieures, qui faisaient d'elle une femme de valeur. Le look, c'est important, mais les valeurs intérieures sont décisives. En conclusion, le mariage n'est pas seulement une promenade romantique au coucher du soleil. Le mariage n'est pas un dîner intime aux chandelles, une course en décapotable par une légère brise d'été. Si Dieu nous accorde de tels moments, prenons-les avec reconnaissance. Mais le mariage n'est pas toujours simple. C'est une vie à deux qui ne passe pas toujours par des hauts ensoleillés. Il y a des jours sombres. Oui, une belle lune de miel, mais elle est vite passée. Alors vient la vie de tous les jours, des temps de crise, des difficultés professionnelles, des maladies, des problèmes avec les enfants. C'est alors que les valeurs intérieures comptent. Certains jours, le mariage est un vrai défi. Il exige de nous jusqu'à l'extrême. On n'a pas alors besoin d'une femme qui soit une figurante de vitrine ou un homme qui soit un modèle de journal de mode. Nous avons besoin d'hommes et de femmes capables de mettre la main à la pâte, d'hommes et de femmes capables d'aider. Un conjoint pour les beaux jours ne suffit pas. Le bonheur dans le mariage est quelque chose qui ne se met pas en place automatiquement, même quand c'est deux chrétiens qui se marient. Dans le mariage, Dieu nous a donné un don parfait, mais il rattache ce don à notre responsabilité. Il arrivera ce que nous en faisons. Ce n'est pas clé en main. Mais si nous fixons nos regards sur la parole de Dieu pour bien diriger notre mariage, il en résultera une bénédiction divine pour le couple et celui-ci passera à travers les différentes épreuves de la vie. Puisse Dieu vous garde à vous qui avez choisi d'honorer l'Éternel et remettre votre union entre ses mains. Amen.